puisque vous nous racontez la bouleversante histoire d'un amour impossible.
Et oui, qui pose la question de ce qu'on fait des écrits, des écrivains quand ils sont morts. Je vous en parle parce que la semaine dernière, à l'université de Princeton, on a découvert les lettres du poète américain T.S. Eliot. En France, on le connaît mal, mais c'est l'équivalent de Victor Hugo, en fait, pour les Américains. C'est l'un des pères de la littérature américaine. Il est né en 1888 et mort en 1965, pour vous le situer.
Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on ne découvre ces lettres que maintenant?
En fait, elles sont toutes adressées à Emily. Elle, il en était amoureux, mais il était marié. C'était donc un amour impossible. Elle en avait 1130 des lettres. Elle les avait données à l'université de Princeton, mais avec une condition, qu'elle ne soit ouverte que 50 ans après sa mort, pour pas embarrasser l'écrivain, justement. Mais T.S. Eliot l'a appris à ce moment-là. Il pouvait rien faire pour l'en empêcher. Alors, il a laissé lui aussi une lettre à l'université, à n'ouvrir qu'au moment où on ouvrirait les lettres d'Emily. Et il y explique qu'il a été effectivement amoureux d'Emily, elle, mais que... Et ça, c'est cruel. Peu à peu, j'ai réalisé que j'étais amoureux d'un souvenir, le souvenir de mon expérience, amoureux d'elle pendant ma jeunesse. Il ajoute que s'il l'avait épousée, elle, elle aurait tué le poète en lui.
Ah oui, carrément.
C'est dur. C'est dur.
Mais je pense qu'il était vexé qu'elle ait donné les lettres à l'université de Princeton.
C'est ça, c'est de la rancœur. Ça pose la question aussi de la postérité des écrits des écrivains qui n'ont pas vraiment leur mot à dire finalement.
Bah, a priori, quand on les trouve, on les publie en fait. Tous les écrits
des écrivains. Mais juridiquement, on a le droit?
Juridiquement, quand c'est 50 ans plus tard, tout est dans le domaine public.
La loi dit que, voilà, une fois que c'est dans le domaine public, on fait ce qu'on veut.
Sauf si les ayants droit ont encore la main et qu'ils peuvent l'en empêcher. Mais c'est très très rare. Moi, j'ai pas de contre-exemple d'écrits qui n'auraient jamais été publiés, auxquels on n'aurait pas accès, ou alors on ne les connaît simplement pas, on ne connaît pas leur existence. Parce que les écrivains, ça n'appartiennent plus vraiment, finalement, ils appartiennent au patrimoine culturel au bout d'un moment. Mark Twain, par exemple, il est mort en 1910, il avait publié son autobiographie qui est gigantesque, c'est 3 volumes de 800 pages, mais il avait dit, attention, elle ne sera publiée que 100 ans après ma mort. Mais en fait, évidemment...
Ça n'a pas tenu 100 ans.
Ça n'a pas tenu. Enfin, ça a tenu pour la publication officielle, mais dans les années 50, 60, on a eu des extraits, déjà, les bonnes feuilles de l'autobiographie de Mark Twain. Et puis, tout a été publié, effectivement, en 2010, in extenso, officiellement.
J'ai une petite question, on va voir si vous êtes vraiment spécialiste littéraire. Mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand, c'est sorti combien de temps après sa mort?
Je ne sais pas du tout.
Mais c'était genre pas très... non, t'en as aucune idée?
Non, aucune idée.
Bon, oublie alors. Non, parce que je me demande s'il l'avait genre... S'il avait dit justement de 10 ans, 5 ans, tu vois.
Non, j'ai pas le nom d'année.
Je crois que c'était assez rapide. On oublie.
Par contre, j'ai l'histoire de Kafka qui est intéressante puisqu'il avait laissé tous ses manuscrits à son grand ami, son meilleur ami de toute sa vie, Max Brod, et il lui a écrit une lettre, on a cette lettre, dans laquelle il lui demande de brûler tous ses manuscrits à sa mort. Ce qu'il ne voulait pas que ce soit publié, il trouvait que c'était incomplet.
Ça a été, il l'a fait ?
Inabouti. Et Max Brod l'a trahi.
Ah non.
Il l'a trahi en le justifiant, en disant « je ne peux pas brûler ça,
je ne peux pas priver.
Il faut que je vous les offre à l'humanité ». Et c'est grâce à Max Brod, d'une certaine manière, qu'on a le procès le château.
Ouais. Mais le château, il n'était pas d'accord pour que ce soit publié ?
Eh bien non. Eh bien non, parce qu'il considérait que ce n'était pas abouti, qu'il ne fallait pas le lire.
C'est vrai que c'est bizarre le château, mais enfin bon, c'est
le procès aussi. Mais bon, voilà, en fait, c'est une vraie question. Et évidemment, intuitivement, on soutient Max Brod, on se dit ça aurait été trop dommage. Mais à la fois, qu'est-ce qu'on fait de l'écrivain lui-même? Salinger, par exemple, donc. Salinger, qui, c'était cet écrivain américain qui a écrit L'Attrape-cœur et qui a été un énorme succès dans les années 50. Il a eu 60 millions d'exemplaires vendus. Et ensuite, il a vécu reclus dans une petite ville du New Hampshire. Où tous les... On en reparlera, on en a déjà beaucoup parlé, mais tous les villageois le protégeaient contre les journalistes et les curieux, les lecteurs qui voulaient lui parler, il donnait des fausses pistes, etc. Parce que lui, il ne voulait plus apparaître en public, il ne voulait pas qu'on ait de photos de lui, il ne voulait plus publier rien du tout. Et ça a duré 60 ans comme ça, il est mort en 2010, Salinger, et la légende courait qu'il y avait une malle pleine de manuscrits, qu'il avait continué à écrire toute sa vie, etc. Quand il est mort, on n'a pas eu de nouvelles, et puis il y a 6 mois, son fils, Matt Salinger, a annoncé que oui, il y avait bien des écrits, mais c'était des notes épars et qu'il allait faire le travail de reconstitution de tous ses écrits pour le publier. Ça va être bientôt, là, en 2020, c'est annoncé.